VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel au Soudan. La police a tiré hier à Khartoum des gaz lacrymogènes sur des dizaines de manifestants qui ont appelé à une nouvelle enquête indépendante sur la répression meurtrière d'un sit-in. Insatisfait des conclusions d'une investigation officielle annoncée la veille, les chefs de la contestation évoquent un bilan des victimes moins élevé que le leur et qui exonère la responsabilité du conseil militaire au pouvoir à Khartoum. Une coalition d'ONG tanzaniennes a dénoncé hier un très grave problème d'écoute et d'interception illégale des communications, condamnant la récente publication sur les réseaux sociaux d'échanges attribués à des membres du parti au pouvoir, critiquant le président John Magufuli. Lors d'une cérémonie de prestation de serment de nouveau ministre en janvier, le président Magufuli en personne avait affirmé avoir lu des textos interceptés que s'échangeaient certains de ses collaborateurs, dont une ministre, un député et des responsables de district. Au moins 4 personnes, dont une fillette de 2 ans et sa mère, ont été tuées samedi. C'est dans le nord-est de la Guinée, dans un éboulement sur un site aurifère. Bagassikoura.
Le bilan de l'éboulement a été confirmé par la gendarmerie et un agent de la Croix-Rouge locale. Les 4 victimes comprennent une maman et sa fillette de 2 ans. 2 blessés ont également été conduits à l'hôpital de Sigiri, une ville située à environ 600 km de la capitale Conakry. Selon les mêmes sources, les victimes travaillaient dans une ancienne mine d'or interdite d'exploitation en raison des risques d'éboulement qu'elle présentait à cause de fortes pluies. Mais les gens se cachaient pour aller dans les galeries, a indiqué un agent de la Croix-Rouge. Au moins 17 orpailleurs clandestins avaient été tués en février dans une mine près de Nyorasoba, à quelques 35 km de Sigiri. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée. Les mineurs clandestins viennent outre la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. La région de Sigiri compte à elle seule plus de 20 000 orpailleurs, selon des sources officielles.
La présidence du Nigeria a annoncé dimanche l'interdiction du mouvement islamique du Nigeria, IMNN, un mouvement chiite radical après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja. Selon la présidence, des extrémistes qui ne croient pas aux manifestations pacifiques et utilisent au contraire la violence et les incendies criminels ont pris le contrôle de l'IMNN, sémant la peur et sapant les droits des autres ainsi que des autorités constituées. Au moins 6 manifestants, un journaliste et un policier ont été tués lundi dans des violences qui ont éclaté pendant une marche organisée par l'IMNN pour obtenir la libération de son leader, Ibrahim Zakzaki. Le Fonds mondial pourrait réduire ou mettre un terme à ses financements au Cameroun. La raison, le non-versement par la partie camerounaise des sommes de cofinancement, soit 20% du montant total de chaque enveloppe reçu. Inquiétude de la société civile à Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Nta.
La lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont les 3 axes d'intervention du Fonds mondial concernés par une éventuelle suspension ou diminution des financements.
Ce qui se profile, c'est un taux d'incidence du VIH plus élevé.
Serge Yota est le directeur exécutif de Affirmative Action, un organisme de la société civile qui promeut les droits humains et les droits en santé sexuelle.
Si on imagine un Cameroun où le Fonds mondial ne finance plus ou bien limite seulement le financement contre le sida. D'ici 5 ans, tous les acquis qu'on a pu avoir jusqu'à présent soient perdus. Qu'on est passé d'une prévalence, par exemple, du sida de 4,3% à 3,8%. Donc, d'ici 5 ans, on peut passer encore une recrudescence, donc quitter de 3,8% peut-être à 5,3%.
Depuis 2003, le gouvernement a signé 15 accords de subvention avec le Fonds mondial pour un montant de près de 198 milliards de francs CFA. Pour la période 2018-2020, 4 nouveaux accords d'une enveloppe globale de 108 milliards de francs CFA ont été signés entre le Fonds mondial et le pays. Mais pour accéder à la totalité de ce dernier financement, l'organisme onusien exige que le Cameroun se conforme à sa politique de subvention. Le pays doit verser au plus tard, cette fin juillet, un peu plus de 48 milliards de francs CFA, qui représentent les 20% de cofinancement du gouvernement.
Les actions ont été menées à un niveau très élevé. La réponse qui est mise en avant, c'est que le pays a plusieurs priorités.
Lui Merlin Tsamo, secrétaire général du Conseil d'association positive générale personnes qui travaillent dans le domaine de la santé.
C'est souvent dommage que la santé ne soit pas la priorité des priorités. Que le pion public camerounais soit informé de la situation qui prévaut, des enjeux qui sont autour, et qu'elle puisse se mobiliser de manière à mettre la pression sur le gouvernement. Tant que ce sera une affaire de bureau, certains fonctionnaires de l'État camerounais auront tendance à croire qu'on peut jouer avec la santé camerounaise.
À cause de la non-disponibilité du cofinancement du Cameroun cette année, les populations des régions du centre, de l'est et du nord-ouest n'ont pas reçu des moustiquaires imprégnés d'insecticides. La société civile sensibilise à tout vent désormais sur la situation avec le concours de ses partenaires internationaux. Marie-Madeleine Mbala Ebengue, experte nationale chargée des questions du genre au programme des Nations Unies pour le développement.
La recherche du financement, donc ça fait partie de notre mandat. C'est la raison pour laquelle on a pris cette initiative de soutenir la société civile et les médias dans la recherche de financement complémentaire pour appuyer les efforts du Fonds mondial et du gouvernement du Cameroun dans la lutte contre les trois pathologies que sont le VIH, la tuberculose et le paludisme.
Contacté par VOA Afrique, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, département de tutelle en matière de coopération économique internationale, n'a pas expliqué pourquoi le Cameroun ne parvient plus à honorer ses engagements. C'est un sujet sensible, a commenté sous anonymat un cadre de ce ministère. Pour la société civile, la santé de plus de 500 000 personnes vivant avec le VIH-Sida est en jeu. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Au moins 3 personnes sont mortes dimanche et 15 autres ont été blessées lorsqu'un tir a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie ici aux États-Unis à Gilroy en Californie, au sud de San Francisco. Un garçon de 6 ans fait partie des personnes tuées. Le tireur, lui, a été abattu par des policiers peu après le début de la fusillade. La fusillade s'est produite durant le festival de l'Aïe, un des principaux festivals de gastronomie du pays, qui s'achevait dimanche à Gilroy, une ville de 50 000 habitants à une cinquantaine de kilomètres de San José. Cet événement, surtout familial, attire chaque année, sur 3 jours, quelques 100 000 personnes, selon les organisateurs. Le président Donald Trump a annoncé dimanche que le chef des services de renseignement américain Dan Coats, qui tirait son poste en août et qu'il avait l'intention de le remplacer par le représentant John Ratcliffe. Monsieur Coats cessera donc le 15 août ses fonctions en tant que directeur du renseignement national, un poste qui supervise et coordonne les activités de la CIA, de la NSA et des autres services de renseignement américains. Monsieur Trump a annoncé sur Twitter son intention de désigner donc pour le remplacer le député John Ratcliffe, un des élus du Texas, à la Chambre des représentants. Et puis Donald Trump s'est défendu hier des nouvelles accusations de racisme déclenchées par sa diatribe de la veille contre un élu noir de la ville et la ville de Baltimore. À nouveau, Bagasikoura.
Le président américain a dépeint samedi en quelques tweets un tableau infâme de Baltimore, ville industrielle du Maryland, majoritairement noire, minée par des problèmes sociaux, la drogue et la violence. Un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs, a dit le président américain, ajoutant que c'est un endroit très dangereux et sale où aucun être humain ne voudrait vivre. Ces attaques visaient en premier lieu Elijah Cummings, élu de Baltimore au Congrès, qui avait critiqué la semaine dernière les conditions de détention des mineurs à la frontière avec le Mexique. Elles ont provoqué une volée de réponses indignées au sein de l'opposition. La chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, les qualifiant notamment de racistes. Les démocrates jouent toujours la carte du racisme alors qu'ils ont en réalité fait si peu pour les formidables afro-américains de notre pays, a répondu dimanche matin Donald Trump sur Twitter. Il n'y a rien de raciste, a-t-il insisté dans l'après-midi par le même biais, comme lorsqu'il avait invité mi-juillet 4 élus démocrates issus des minorités à retourner dans leur pays. Ces nouveaux propos ont été commentés avec parcimonie au sein de son camp.
Le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, a exclu aujourd'hui un échange entre le pétrolier britannique saisi par l'Iran dans le détroit d'Hormuz et le tanker iranien arraisonné par les Britanniques au large de Gibraltar. Interrogé sur la BBC pour savoir si les Britanniques comptaient faire un échange pour tenter de régler la crise entre les deux pays, M. Raab a répondu non, il ne s'agit pas de faire du troc, il s'agit de faire respecter le droit international et les règles du système juridique international, a-t-il dit, estimant du fait que la situation des deux navires n'était pas comparable. Et puis, le gouvernement chinois a appelé aujourd'hui l'exécutif de Hong Kong à sanctionner les auteurs de violences et à rétablir l'ordre plus vite au lendemain de nouvelles manifestations dans l'ex-colonie britannique. Lors d'une conférence de presse à Pékin, un responsable du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao, l'organe chinois chargé des relations avec la métropole du sud du pays, a estimé que les manifestations des derniers mois avaient gravement compromis la prospérité et la stabilité de la ville. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.